Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
12h30, 14h30 et on redevient sérieux. Deux heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec la jolie voix d'Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h.
Bonjour à tous et à la une des masques bientôt distribués aux enseignants. Enfin, disent les syndicats. Valérie Pécresse qui veut ressortir le Karcher et puis la France obligée de recourir au charbon pour l'hiver.
Et les deux débats du jour, donc la colère des restaurateurs depuis lundi, le retour généralisé du télétravail. Ils voient leur chiffre d'affaires dégringoler. Puis à 12h50, Novak Djokovic jouera-t-il ou pas l'Open d'Australie ? On en saura davantage vers 12h50.
Et c'est justement notre question du jour sur RTL.fr. Doit-il ou non participer à l'Open d'Australie ? Vous dites oui à 20% seulement. La météo avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
On a eu bien froid ce matin. Rassurez-nous, ça va remonter un peu cet après-midi ?
Ça va remonter, mais c'est vrai que par endroits, ça restera encore sous les valeurs de saison, de 2 à Langres à 14 à Toulon, 5 à Lyon, 7 à Paris, Toulouse et Caen. Côté ciel, c'est plutôt agréable avec des éclaircies, plus timides sur le nord-est avec encore quelques flocons sur les reliefs. Et puis une nouvelle perturbation arrive par la Bretagne. Notez qu'il y a encore beaucoup de vent près de la Méditerranée, puis ça reste pluvieux en Corse.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord, l'Australie et Novak Djokovic passent donc une deuxième nuit en rétention à l'hôpital, certes, mais le numéro 1 mondial du tennis est en rétention. Après avoir vu son visa annulé, il a obtenu un sursis, Isabelle Langer.
Ah oui, il ne sera pas expulsé, tout du moins jusqu'à lundi. Refoulé hier à son arrivée à Melbourne et menacé d'expulsion, le numéro 1 mondial a déposé un recours contre la décision des autorités. Ses avocats ont jusqu'à samedi après-midi pour apporter de nouveaux éléments au dossier, notamment d'éventuelles preuves attestant de la validité de son exemption médicale. D'après le quotidien The Age, les justificatifs fournis par Djokovic n'étaient pas assez précis et seulement appuyés par un médecin. Il n'a pas pu présenter d'autres documents aux autorités. Interrogé sur l'affaire en conférence de presse ce matin, Rafael Nadal, deux fois vacciné et qui a contracté le Covid il y a quelques semaines, n'a pas été langue de bois.
Selon moi, le monde a trop souffert pour ne pas suivre les règles. S'il avait voulu, il aurait pu jouer ici sans problème. Chacun est libre de ses décisions, mais il y a des conséquences. D'un côté, je suis désolé pour lui, mais il connaissait les conditions depuis longtemps.
Une affaire Djokovic qui va aujourd'hui bien au-delà du tennis puisque le président serbe Aleksandar Vučić dénonce une chasse et un acharnement politique contre le joueur avant de préciser que Belgrade fait tout pour aider le numéro 1 mondial.
Isabelle Langer du service des sports de RTL et pardonnez-moi, ma langue a fourché, j'ai dit hôpital en rétention à l'hôpital, c'est bien sûr en rétention à l'hôtel.
Et à 12h50, on ira sur place à Melbourne pour mieux comprendre ce feuilleton. Ce sera le deuxième débat de RTL midi.
Ici en France, ça y est, les enseignants vont avoir droit à des masques chirurgicaux gratuits. Ils seront distribués d'ici à la fin du mois, annonce Jean Castex. Enfin, répondent les syndicats.
Il aura fallu quand même la cinquième vague et une contamination extrême dans les écoles pour que enfin le ministère nous entende et nous fournisse des masques chirurgicaux. C'est pas une mince affaire parce que depuis le début, on est sur ce front auprès du ministère qui ne nous répondait pas. Très certainement, ça a été le coup qui a été un frein pour le ministère. Et ça questionne parce que ça veut dire qu'on n'est pas capable de dépenser pour protéger les personnels. On est toujours en demande des masques FFP2 pour les collègues qui le souhaitent, notamment nos enseignants de maternelle qui ont en face d'eux des élèves non masqués, mais les masques chirurgicaux, enfin on les obtient.
Et Guylaine David du SNU IPP au micro RTL de Marie Guerrier. Bonjour Marie.
Bonjour.
On vient d'entendre le soulagement des enseignants concernant les masques. Ça coince en revanche toujours au niveau du protocole mis en place dans les écoles. Il faut dire qu'il y a quoi de s'arracher les cheveux.
Hein. Oui, un cas positif dans une classe en primaire. Tous les autres élèves doivent être testés. Un résultat négatif permet de revenir à l'école. Ensuite, il y a deux autotests à faire, à J+2 et J+4. Les parents doivent fournir des attestations sur l'honneur. Tant que les résultats sont négatifs, les élèves viennent à l'école. Mais si, sur le deuxième autotest, un enfant est positif, eh bien, On recommence la série de trois tests pour tout le monde, parce qu'il a pu contaminer des camarades. Ça s'annonce sans fin.
Alors là, on parle de cas contact, de camarades de classe. Il y a d'autres cas ?
Alors, et on peut être cas contact d'un malade positif dans sa famille. Mmh. Alors, dans la règle générale édictée par le ministère de la Santé, les cas contacts en famille doivent être isolés 7 jours s'ils ne sont pas vaccinés. Mais ça ne s'applique pas aux enfants de moins de 12 ans. Donc, les enfants de moins de 12 ans qui ont un cas positif dans leur famille peuvent aller à l'école si leur test est négatif.
Un parent malade, ils peuvent aller à l'école.
Si le test est négatif. Alors tout ça est très confus, confusant pour les parents, pour les directeurs d'école. Karim Bacha est directeur d'une école en Seine-Saint-Denis. Il estime que le protocole, il ne va pas pouvoir tenir.
Ça fait partie des incohérences qui, nous, en tant que professionnels, nous semblent de nature à ne pas freiner l'épidémie. Sans être devin, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de parents qui iront faire des tests nasopharyngés tous les deux jours pendant le mois de janvier à leurs enfants. Et ça va poser la question de la crédibilité à terme de cette attestation sur l'honneur et du protocole dans son ensemble.
Ce directeur d'école plutôt dubitatif et effectivement tout cela marchera avec la responsabilité des parents, c'est pas forcément gagné. Merci beaucoup Marie Guerrier. Mais non, mais c'est vrai, il faut bien le reconnaître, faire tester son enfant tous les deux jours, c'est quand même compliqué. Dans le même temps, les députés, eux, ont adopté le projet de loi instaurant le pass vaccinal. Vote au petit matin, il était 5h25.
Votants 334 pour 214 contre 93. Un mot, chers collègues.
Bonjour Valentin Boissé.
Bonjour.
Ce texte, les parlementaires l'ont un peu modifié. Que prévoit-il ?
Eh bien, pour reprendre les mots du président de la République, avec ce texte, il sera en théorie impossible de boire un canon si vous n'êtes pas vacciné. À partir de 12 ans, ce nouveau pass sera donc demandé dans les activités de loisirs, restaurants, débits de boissons, cinéma, musée. Il faudra aussi le présenter pour prendre les transports interrégionaux, par exemple avion, train ou car. Mais il y a une exception pour les 12-16 ans. Le pass vaccinal ne sera pas exigé pour les sorties scolaires et activités périscolaires. Et pour appliquer tout cela, les gérants des lieux concernés, comme les restaurateurs, pourront, et c'est nouveau, demander une pièce d'identité afin de vérifier que le pass est bien celui de la personne. Alors, emmerder les non-vaccinés, peut-être, mais aussi les excuser, car cette nuit, les députés ont voté un amendement qui supprime les peines en cas d'infraction au pass si la personne va finalement se faire vacciner dans les 30 jours.
Les activités périscolaires, c'est important de le préciser. Un enfant qui est licencié dans un club de basket, de handball ou de football pourra continuer, s'il a entre 12 et 16 ans, à jouer même s'il n'est pas vacciné.
Absolument, ça concerne tous les ados.
Merci beaucoup Valentin. Valentin Boissé du service politique de RTL. Le texte doit désormais être examiné au Sénat. Ce sera à partir de lundi, le 10 janvier. Jean Castex espère toutefois encore une entrée en vigueur pour le 15, comme annoncé.
L'Italie, elle, a choisi d'aller encore plus loin.
Avec une vaccination obligatoire pour les plus de 50 ans. Bonjour Olivier Bonnel.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de RTL à Rome. Qu'en dit-on sur place ?
Eh bien, le sentiment général est plutôt l'approbation de ce nouveau tour de vis sanitaire. Si l'Italie a ses Novax, comme partout, le consentement au vaccin est très fort dans le pays. C'est le cas chez Iole, croisé ce matin au café.
Selon moi, c'est une bonne chose, cette obligation. Je suis désolée pour les Novax, mais malheureusement, c'est eux qui continuent à faire circuler le virus. Je n'en connais pas personnellement, mais je sais qu'ils sont nombreux.
De fait, près de 2,5 millions de cinquantenaires et plus dans la péninsule seraient réticents à l'injection vaccinale. Un chiffre que le gouvernement veut absolument réduire. Pour Salvatore, cette tranche d'âge est aussi la plus perméable à la désinformation.
Malheureusement, c'est encore la peur de ces vaccins qui domine chez beaucoup de personnes, et en particulier les plus de 50 ans, qui ne sont pas correctement informés. J'espère que cette obligation sera une forte incitation à se faire vacciner.
En Italie, c'est la tranche des 50-59 ans qui est la plus surveillée. Plus de 11% de cette catégorie n'a encore reçu aucune dose de vaccin.
Olivier Bonella à Rome pour RTL. On a beaucoup, beaucoup parlé hier de cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui a très envie d'emmerder, ce sont ses mots, les non-vaccinés. Eh bien, Valérie Pécresse ressort, elle, figurez-vous, le Karcher. Celui de Nicolas Sarkozy, la candidate des Républicains, est en déplacement à Salon de Provence.
Il faut ressortir le Karcher. Il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers et il faut traquer les caïds, les voyous, les criminels, les dealers. C'est eux qu'il faut harceler, c'est eux qu'il faut punir, c'est eux qu'il faut priver de leur citoyenneté. Il va falloir nettoyer tous ces quartiers qui sont devenus des zones de non-droit, voire même parfois des zones de non-France. Vous allez venir avec moi tout à l'heure à Cavaillon. Vous allez voir les dos d'âne qui sont construits aujourd'hui par les dealers pour empêcher les policiers de les poursuivre. Ça, je ne l'accepte pas. Il n'y aura pas, dans ma République, des quartiers dans lesquels les dealers tiennent le haut du pavé.
Valérie Pécresse au micro RTL d'Étienne Baudu. En plein débat autour du réchauffement climatique, ça paraît fou, mais la France va être obligée de revenir au charbon cet hiver. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour Amandine.
Ça veut dire que les centrales nucléaires ne suffisent plus?
Oui, car 17 réacteurs sont arrêtés sur 56. Jamais le parc nucléaire a aussi peu produit à cette période de l'année. Alors, il y a des centrales qui sont en maintenance pour faire des réparations. Et puis, 4 réacteurs, ça ce n'était pas prévu, ont dû être arrêtés en urgence pour vérifier des défauts dans la tuyauterie. Donc, pour compenser, RTE, qui gère le réseau électrique, doit faire fonctionner les 2 centrales à charbon qui existent encore. Pour des raisons de respect de nos objectifs sur le climat, ces centrales, elles sont en principe limitées. Elles ne doivent pas fonctionner à plein régime. Alors le gouvernement va autoriser EDF par décret à produire plus, sinon en cas de vague de froid il risque d'y avoir des coupures cet hiver. Alors on peut compter aussi sur les éoliennes, mais il faut qu'il y ait du vent. Se pose la question de l'avenir. Les 2 centrales à charbon, elles vont devoir fermer. Saint-Avold en Moselle cette année, Cordemais en Loire-Atlantique en 2024. On voit donc l'importance de développer encore plus les énergies renouvelables et pas que l'éolien, le bois, la biomasse, le solaire, sinon la France devra importer une partie de son électricité l'hiver.
Explication signée Virginie Garin. Une nouvelle enquête pour agression sexuelle ouverte contre Pierre Ménès. Le parquet de Nanterre, saisi par l'inspection du travail, a décidé de se pencher sur les faits évoqués notamment par Marie Portolano dans son documentaire sur le sexisme dans le journalisme sportif. Reprise aujourd'hui par ailleurs du procès aux attentats, du procès des attentats du 13 novembre, a priori en présence du principal accusé, Salah Abdeslam. Après avoir été testé positif au Covid fin décembre, il a hier été jugé apte à comparaître.
Et puis un trio de cambrioleurs interpellés en Normandie.
Et ils sont soupçonnés d'avoir volé 24 voitures haut de gamme, tout ça. Et c'est ce qui est intéressant, peut-être à l'aide d'un drone, Guillaume Chiez. C'est en tout cas l'hypothèse des gendarmes.
Oui, c'est ce que décrivent plusieurs témoignages recueillis après les cambriolages. Quelques jours avant les intrusions, un drone aurait survolé certaines maisons visées par le trio de voleurs. Et les gendarmes estiment que cela leur aurait permis de connaître parfaitement les lieux et de ne commettre aucun faux pas au moment du passage à l'acte. Les cambrioleurs âgés d'une vingtaine d'années n'avaient ensuite plus qu'à s'introduire chez leurs victimes, dérober les clés de leur voiture, la plupart du temps de grosses cylindres allemandes et repartir avec le véhicule. Au total, 24 vols commis, un préjudice de 600 000 euros. Le trio a été interpellé le mois dernier en flagrant délit. Ces vols alimentaient un réseau rouennais de criminalité organisée bien connu des enquêteurs. En revanche, ils n'ont pas encore mis la main sur le drone qui aurait facilité le passage à l'acte.
Guillaume Chiez du service police-justice de RTL.
La colère des restaurateurs, notre premier sujet. Depuis lundi, le retour généralisé du télétravail, ils voient leur chiffre d'affaires dégringoler. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
On est à minimum moins 50% de chiffre d'affaires. On a décidé de fermer les soirs, c'est pas rentable.
Cette jeune femme tient une pizzeria dans le quartier de la Défense à Paris, quartier d'affaires, et depuis le début du confinement, des nouvelles restrictions depuis lundi concernant notamment le télétravail, son chiffre d'affaires est en train de plonger. Moins 30% de chiffre d'affaires en moyenne, en moins, RTL vous le révélait dès ce matin. Alors faut-il s'inquiéter? Les restaurateurs sont-ils en train de payer pour les autres? C'est le premier débat d'RTL Midi avec nous. Stéphane Manigold, restaurateur et porte-parole du collectif Restons Ouverts. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le
studio
d'RTL. Et puis Didier Chenet qui lui est en ligne avec nous, président du GNI, le groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Bonjour Didier Chenet.
Bonjour à vous tous. Merci de votre invitation.
Merci à vous d'être en direct avec nous. Ce chiffre de moins 30%, c'est vous qui nous l'avez fourni. Cette baisse de chiffre d'affaires, elle est directement liée au télétravail, à la généralisation du télétravail?
Elle est liée à toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement. C'est évident. 80% à peu près des professionnels connaissent une baisse d'au moins 30%. Je dis bien au moins. Pour le début janvier, avec 2 focus particuliers, l'hôtellerie, où vous avez près de 54% des hôtels qui enregistrent une baisse d'au moins 50% de leur chiffre d'affaires. Donc là, un focus et une difficulté pour eux. Et puis le deuxième, c'est les traiteurs, on le sait, où vous avez 3 traiteurs sur 4 qui ont perdu entre 80 et 100% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est toutes les mesures cumulées. C'est aussi bien l'interdiction de la consommation debout que l'obligation du télétravail, que la mise en place des jauges.
Il y a des jauges aujourd'hui qui sont mises en place dans vos établissements, dans les restaurants.
Mais pas dans nos établissements. Ah non, mais les jauges qui sont mises en place pour les salons et toutes les réunions.
Oui, mais dans les restaurants, qu'est-ce qui a changé?
Bonjour Didier et bonne année, on échange effectivement. Nous avons des groupes WhatsApp, mais on va arrêter le sophisme 2 minutes. Les jauges, elles sont directes, indirectes. Interdiction de consommer debout au bar, c'est une jauge. Télétravail 3 jours par semaine, c'est une jauge.
Non, mais ça, c'est pas lié au restaurant, télétravail. C'est une conséquence pour vous et je le comprends, mais c'est pas.
C'est une jauge indirecte.
Oui, mais c'est entendu, mais c'est pas dans vos établissements que quelque chose a changé. Consommation debout. Oui, consommation debout, mais c'est les restaurants généralement. On ne déjeune pas ou on ne dîne pas debout, c'était uniquement pour les cafés.
Vous avez raison, mais quand vous avez 3 jours de télétravail que vous imposez aux collaborateurs, nous avons des annulations massives en décembre et en janvier. Des entreprises qui devaient fêter, se retrouver, fêter la bonne année mais à 10
ça,
à 15
c'est
à 20,
entendu.
Ben ce sont des conséquences indirectes.
Bien sûr.
C'est au fond, on n'assume pas de mettre des jauges et des restrictions. Et quand j'écoute Didier Chesnais, pardon Didier, mais vous devez être beaucoup plus cinglant avec les mesures qui ont été mises en place. Pourquoi? Parce que c'est des mesures qui incitent à fermer clairement. Je m'explique.
Bon, alors, il est président du groupement national des indépendants et on comprend que vous n'êtes pas d'accord avec lui.
Ah mais on n'est pas d'accord, mais on a un groupe WhatsApp ensemble, il le voit très bien. Et je crois qu'il faut arrêter le sophisme.
Alors,
donc,
allez-y.
À un moment, quand une entreprise, les seuils qui ont été mis en place, coût fixe, pour pallier aux pertes de chiffre d'affaires, tel qu'on vient de le dire, c'est 50% de baisse. Toute la profession fait 40% de baisse. À 30%,
on comprend rien.
Non, mais à partir de 30% de baisse de chiffre d'affaires, une entreprise est en position latérale de sécurité. À 40%, elle est morte. Donc les seuils sont tellement hauts et inaccessibles qu'il vaut mieux, et je le dis là à l'antenne, de contre-cœur, il vaut mieux fermer que d'essayer d'atteindre des pertes de moins 50 et moins 65% pour toucher le chômage partiel.
Parce que c'est à partir de ce seuil-là que
nos entreprises sont protégées. Donc on est dans une situation, vous vous rendez compte qu'on est chef d'entreprise, on est obligé de prévoir qu'on n'arrivera pas à 40% à tenir de baisse de chiffre d'affaires et que les seuils sont tellement hauts qu'on n'y arrivera pas. Donc là, on est en train de dire à nos syndicats qui passent leur vie dans les cabinets ministériels, arrêtez de faire du sophisme, dites-leur clairement que la vraie vie, une entreprise, quand elle fait 30% de baisse de chiffre d'affaires, elle est morte.
Didier
tout simplement.
Attendez, j'aime beaucoup Stéphane, mais il n'était pas à la réunion à Bercy donc de lundi dernier. Moi, j'y étais et j'ai été le premier à être, à intervenir à la demande du ministre. Je lui ai tout de suite dit d'emblée, Monsieur le ministre, puisque vous nous dites que c'est l'affaire de quelques semaines, il faut taper fort, il faut prendre des mesures qui soient des mesures musclées. Votre ouverture à 50% de baisse du chiffre d'affaires, elle est totalement incompatible.
Je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne l'ouverture à 50%.
Il faut expliquer aux auditeurs. Je vais expliquer, essayer d'être simple, et puis vous me direz l'un et l'autre si ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les restaurateurs, d'autres entreprises, on va simplifier. Les restaurateurs, comme toutes les entreprises qui peuvent être touchées, dès lors qu'elles perdent plus de 65%
elles
de leur chiffre
d'affaires, chômage partiel.
Elle touche le chômage partiel.
Et il faut perdre plus de 50% de son chiffre d'affaires pour commencer à prendre un dispositif qui s'appelle coût fixe, qui prend en charge nos coûts fixes. Pas encore le chômage partiel. Pour toucher le chômage partiel, il faut faire moins 65%. Autant fermer. Vous ouvrez une semaine, ce qui représente à peu près 30% d'un chiffre d'affaires normal.
Et le reste, vous fermez.
C'est impossible de réaliser, de tenir.
Bon. Alors, Monsieur Chesnais, répondez à ça.
C'est
un crève-cœur que de vous dire ça à l'antenne.
Mais
pourquoi 65%, Monsieur Chesnais?
C'est aberrant.
C'est pour ça. Premier point, c'est pour ça, et je le répète, Stéphane, je t'aime bien, mais tu n'étais pas à la réunion.
Non, mais d'accord, on voit les décrets et les décrets.
Nous avons. Attends, laisse-moi terminer. C'est pour ça que nous avons demandé à ce qu'on intervienne à partir de 30% de baisse. Et la deuxième des choses concernant le chômage partiel. Le chômage partiel est ouvert à 65% de perte ou lorsque la baisse d'activité. Donc, est conséquente aux mesures sanitaires qui ont été mises en place par le gouvernement.
Monsieur Chesnais, ça suffit ce qu'a mis en place le gouvernement ou pas? Très
non,
simplement.
C'est-à-dire non. que cette possibilité donc, d'ouverture du chômage partiel à 100%, uniquement si vous n'avez pas de perte de. Enfin, si vous ne prenez pas en compte critères de perte de chiffre d'affaires, est ouvert uniquement pour les bars. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que ça doit être ouvert à tout le secteur HCR. C'est-à-dire que on n'est plus ce critère de 65%, mais que l'on considère que à partir du moment où on a mis en place l'interdiction de consommer debout, le télétravail, bon, je ne vais pas tout reciter, ce sont des mesures qui sont de nature, donc, à évidemment avoir un impact considérable sur notre activité et donc des mesures de nature à ouvrir droit
mais c'est
à ces aides.
Ce qui est étrange, que je saisis mal, c'est qu'il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas de confinement. En gros, il n'y a que le télétravail pour un restaurant.
C'est énorme.
Oui, j'entends bien. Mais que ça mette en péril vos établissements. J'entends bien que le télétravail, mais le soir, par exemple, on n'est pas en télétravail. Pascal. Les établissements du soir, c'est pas du télétravail.
J'ai eu les alors
pour
à
le
Paris.
Pour
les
le
hôtels.
Déjeuner, je veux bien, mais je saisis mal pourquoi il y aurait chute du chiffre d'affaires
comprendre.
À ce point.
Je vais sortir de ma profession. Je vais parler de nos amis des hôtels.
Mais les hôtels, non, mais les hôtels
c'est autre chose. C'est autre chose. Les hôtels, je peux le comprendre.
Mais le télétravail, vous n'allez pas dans un hôtel, vous n'allez pas consommer un petit déjeuner. Vous n'allez pas au restaurant D'accord. avec ouais. votre client, etc. Donc, c'est forcément toute une désorganisation de l'économie.
Bon, ça va durer 3 semaines, le télétravail. Vous avez été quand même, me semble-t-il, assez bien soutenu depuis le départ de cette crise. Donc, est-ce que pendant 3 semaines...
Je vais vous répondre. Oui. Premier point, sur le premier confinement, on n'a rien touché. Rien. 0 euro, 0 centime. C'est sur nos fonds propres. Et on nous a collé un prêt garanti par l'État. Donc ça, ce n'est pas une subvention. Ce n'est pas une aide. Ce n'est pas une indemnisation. C'est de la dette. Deuxième confinement, au mois de décembre 2020, à ce moment-là, et il faut le reconnaître, les dispositifs ont été acceptables pour l'ensemble de la profession et on ne peut que le saluer. Ce que l'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est que l'économie est repartie fortement et puissamment. Il y a une baisse de chômage, que le quoi qu'il en coûte qui a été mis en place, moi
donc
j'en suis fier parce
des
que
aides.
Ça. Mais c'est pas des aides, ce sont des indemnisations,
oui,
Pascal.
Oui, bien sûr.
Mais regardez, c'est tout un écosystème.
Oui,
quand les entreprises
bien,
souffrent, vous-même, j'imagine que les commerciaux qui vendent des espaces publicitaires pour RTL ou d'autres stations sont en mal puisque l'économie va forcément baisser.
J'ai
cette
compris
année.
Et je pense que chacun a compris. Merci Monsieur Chesnais, on a compris votre point de vue qui peut nous étonner d'ailleurs et celui de Monsieur Manigold aussi avec ce débat. J'ai compris aussi que vous n'étiez pas forcément d'accord entre vous. Il est 12h52 mais c'était intéressant d'écouter l'un et l'autre. Djokovic, alors ça c'est une très très belle histoire. Je ne sais pas comment elle va se terminer. Je me demande pourquoi il est allé là-bas s'il n'avait pas l'assurance qu'il jouerait. Isabelle Langer nous en a parlé tout à l'heure. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Good evening, Novak Djokovic. The world's best tennis player was refused entry to Australia to play at Melbourne Park.
The world number one was detained by Border Force officers as his vaccine exemption was examined.
Novak Djokovic, the world's top-ranked men's tennis player, has been ordered to leave Australia.
C'est le sujet qui agite l'Australie et toute la planète tennis d'ailleurs depuis plus de 48 heures. Novak Djokovic, après avoir obtenu une dérogation pour venir à Melbourne et participer à l'Open d'Australie, il s'est vu confisquer son visa et attend désormais que son sort soit statué. Alors faut-il l'autoriser à participer à cette Open d'Australie, même s'il n'est pas vacciné? Comment expliquer un tel émoi dans le pays? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour Christophe Mallet.
Bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de RTL en Australie, avec nous aussi Laurent Vergne, journaliste à Eurosport et spécialiste du tennis. Bonjour Laurent, et merci aussi à vous d'être en direct avec nous. Je me tourne d'abord vers Christophe. On le voit depuis 2 jours, le cas Djokovic est devenu une affaire politique chez vous en Australie. Comment ça s'explique ?
Je pense que ça s'explique par le fait qu'on a quand même eu des moments assez compliqués sur les 2 dernières années. Alors comme la planète entière, bien sûr, on a eu le Covid à Melbourne, mais c'est vrai que on a beaucoup dit que Melbourne a été la ville la plus confinée au monde. Alors c'est une chose de le dire, et c'est une autre chose de le vivre. Et quand on a été sur le terrain et qu'on a vécu un confinement comme on l'a eu ici à Melbourne, on a bien vu que la seule solution qui a été prise d'ailleurs pour l'Australie, c'était la vaccination. On est rentré très en retard sur le marché du vaccin. Ça a été très compliqué pour avoir accès au vaccin, on était beaucoup plus en retard que vous en France. Par contre, la vaccination s'est accélérée à grands pas et il y a eu un énorme effort fait par la population en général. Et aujourd'hui, on est à plus de 95% de la population australienne qui est vaccinée. Donc du coup, il y a vraiment une incompréhension dans le public en général en Australie. On se dit, nous, on a fait l'effort, on a 2 vaccins, 3 vaccins. Et donc pourquoi aujourd'hui quelqu'un comme Novak Djokovic pourrait arriver comme un cheveu sur la soupe en déjouant un peu les règles et en étant un petit peu petit peu roublard, le roublard du coin.
Ils ne comprendraient pas, les Australiens, qu'on ne les laisse pas jouer. Ces confinements chez vous, ils ont été extrêmement compliqués pour monsieur, madame, tout le monde. J'allais dire, donnez-nous des exemples très concrets.
Ouais, bah des exemples très complets. Moi, je veux dire le dernier confinement qu'on a eu, donc c'était le sixième. Moi, il était 17h. J'étais en train de jouer au basket avec ma fille. On allait en entraînement et on a tous reçu un texte en disant à partir de 18h, vous devez être chez vous et c'est terminé. Et ça, c'était quelque chose qui devait durer 5 jours et au total, ça a duré 2 mois et demi. Et à partir de là, il a fallu avoir des dérogations. Moi, c'était le sixième et moi par exemple pour aller au travail il fallait que j'ai une dérogation qui devait être renouvelée chaque semaine, chaque vendredi je devais faire le processus de renouveler ma dérogation, de refaire tous les papiers pour savoir si la semaine prochaine je pourrais aller travailler ou pas, donc ça a été très très dur. Les écoles, moi je prends simplement l'exemple de ma fille, elle est rentrée, elle a fait la dernière année de maternelle et la première année de primaire, ça a été en distanciel quasiment à 80%, donc sur une fille qui a 6 ans, elle a passé 2 ans de sa vie à l'école en distanciel, c'est 30%. Donc
effectivement, c'est nettement plus sévère que ce qu'on a pu connaître ici. Laurent Vergne, on a entendu Raphaël Nadal dans le journal qui dit que les règles, quand il y en a, elles s'appliquent à tout le monde. Pourquoi Novak Djokovic ne veut pas visiblement se faire vacciner ?
Parce qu'il a un rapport à la science qui lui appartient, qui est assez particulier. C'est quelqu'un qui a des convictions.
Beaucoup de sportifs de haut niveau.
Oui, mais jusque-là, ça lui posait pas beaucoup de problèmes. On sait qu'il a un rapport, il cherche beaucoup l'harmonie entre son corps et son esprit. Et bon, il y a évidemment ce que tout le monde connaît, l'histoire du gluten. Mmh. Mais ça, c'est seulement la partie visible de l'iceberg. Il a des prises de position. Parfois, je dirais pas anti-science, mais pas loin. C'est quelqu'un, par exemple, qui croit à la transformation énergétique des aliments et de l'eau. Il avait dit dans une vidéo qu'il avait vu des gens par la prière arriver et au pouvoir de la gratitude, il disait, arriver à transformer la nourriture toxique en une nourriture saine. Voilà. Donc il a un rapport qui est très particulier, qui jusqu'ici lui posait pas de problème. Mais à partir du moment où il est dans un contexte où il a besoin d'être vacciné pour pouvoir continuer de pratiquer son métier, là, il se retrouve face à...
Ce que je saisis mal, Laurent Vergne, c'est qu'il est en Australie. C'est donc que la Fédération internationale lui avait donné la possibilité de venir en Australie, sans doute parce que c'est le plus grand joueur du moment et que la Fédération internationale veut qu'il joue ce tournoi. Mais elle n'avait pas pris, j'ai envie de dire, langue avec le ministère ou les autorités australiennes pour valider son arrivée sur le territoire australien ?
En théorie, si. Aujourd'hui, c'est encore assez flou. C'est encore difficile de savoir ce qui s'est exactement passé.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est la fédération qui a donné son feu vert ?
Elle, la fédération, en tout cas Craig Taylor, le patron de la fédération australienne et de l'Open d'Australie, a expliqué qu'il y avait une première phase où il validait les demandes et ensuite il les transmettait à un panel d'experts médicaux indépendants qui étudiait les dossiers, a priori, nous a-t-on dit, même de façon anonyme, donc il ne pouvait pas savoir que la demande émanait de Novak Djokovic, en tout cas c'est ce qui est dit officiellement. Mais après, est-ce qu'il a eu un problème purement de visa ? Est-ce qu'il a un problème
avec les documents médicaux ? Non, c'est un problème politique vis-à-vis de l'opinion. J'imagine que le gouvernement australien, vis-à-vis de son opinion, ce que nous disait Christophe, dit voilà, on a demandé à tout le monde de se faire vacciner, on fait entrer sur le territoire quelqu'un qui ne l'est pas. C'est aussi simple que ça.
Absolument. Et je pense que c'est pour ça qu'il a peut-être commis une erreur de communication avec ce post sur les réseaux sociaux.
Mais il s'est un peu vanté.
Il se prenait en photo. S'il était arrivé en catimini en Australie, il n'y aurait pas eu de tollé dans la presse avant qu'il arrive. Il n'y aurait pas eu de colère populaire et il n'y aurait probablement pas eu d'intervention du Premier ministre. À partir du moment où le personnage le plus important de l'État australien au gouvernement entrait en scène, ça devenait une affaire politique et à partir de là, ça devenait...
Comme toujours,
très,
ça change le dossier. Merci beaucoup Laurent Vergne. Merci également à Christophe Mallet qui a quand même beaucoup de chance parce que je ne sais pas si vous êtes allé à Melbourne. Moi, je suis allé à Melbourne.
Oui, enfin, ce qu'il vient de nous décrire de 2 ans, il n'a pas de chance du tout là.
Mais
pour
c'est un pays merveilleux, l'Australie. Et Melbourne est une des villes les plus formidables du monde. Mais c'est vrai
mais
que les 2 ans ont été difficiles.
Les 2 dernières années, là, vous aurez peut-être pas
moi,
tenu.
Moi, je serais parti à la nage. C'est j'aurais ça. Quitté l'Australie. On rappelle que Djokovic est à l'hôtel en rétention. Vous l'avez dit tout à l'heure et que il a déposé un recours et qu'on attend. De savoir s'il va pouvoir jouer ou être expulsé d'Australie. Nous sommes d'accord.
Il est 13h, les auditeurs dans une seconde. Je salue Damien Béchiot qui réalise. Merci à Ludovic Van Dukerkhove qui était avec nous pour la rédaction en chef de ce 12h30. Le rappel des titres dans une seconde.
RTL Midi.